Et nous débuterons ce journal avec l'hommage national rendu aujourd'hui à Samuel Paty. L'occasion d'évoquer aussi la confusion qui semble toutefois gagner du terrain au sein de la classe politique autour de la réponse sécuritaire à apporter au choc suscité par cette décapitation et qui parfois a tendance à glisser sur le terrain de l'idéologie. Et puis nous développerons évidemment les derniers éléments de l'enquête. 5 jours après cet assassinat, 7 personnes doivent être présentées aujourd'hui un juge antiterroriste.
Justice toujours avec la poursuite à la cour d'assises spéciale de Paris du procès des attentats de janvier 2015.
Oui, ce matin, la cour interrogeait l'un des accusés sur ses liens présumés avec l'un des frères Kouachi.
Toujours en France, une aide exceptionnelle face à la deuxième vague du Covid-19.
Près de 2,5 milliards d'euros vont être débloqués pour aider l'hôpital public et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes, Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et chercheur à l'INSERM.
Et dans votre journal, toujours décès prématurés, mais aussi soins et journées de travail perdues.
Oui, ou quand la pollution de l'air coûte 166 milliards d'euros par an en Europe, c'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui qui se penche sur le sort de 432 villes réparties dans les 27 pays de l'UE. Enfin, étape décisive avant des négociations avec le Parlement européen. Les ministres de l'Agriculture de l'UE se sont mis d'accord hier soir sur une réforme de la politique agricole commune marquée notamment par des règles environnementales plus contraignantes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Du spectacle vivant sous couvre-feu de la littérature, partant de crise avec nous aujourd'hui, le comédien Fabrice Lucchini. Il est sur scène pour 2 spectacles actuellement et il parle avec nous autour de cette grande table jusqu'à 13h30.
C'est dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'enseignement comme de l'esprit des Lumières, que la France rendra donc hommage ce soir à Samuel Paty, 47 ans, sauvagement assassiné vendredi dernier près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui remettra à l'enseignant la Légion d'honneur à titre posthume. Hier déjà, tout au long de la journée, la mémoire de Samuel Paty aura été saluée. À Conflans-Sainte-Honorine, petite commune des Yvelines, réputée tranquille, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une marche blanche qui s'est ébranlée dans le calme jusqu'à la place de la Liberté pour dire non à la barbarie. Un peu plus tôt, image rare qui se voulait à la hauteur de l'émotion suscitée par cette tragédie. Une centaine de députés parés de leur écharpe tricolore et réunis sur les marches du Palais Bourbon avaient eux observé une minute de silence avant que la Marseillaise, entonnée par la garde républicaine, ne vienne parachever cette séquence d'unité voulue à l'adresse des Français. Sauf que la séance de questions au gouvernement qui s'en est suivie dans l'hémicycle se sera, elle, déroulée dans une toute autre ambiance, parfois houleuse et le plus souvent électrique. Il faut dire que la décision de l'exécutif de déclarer la guerre à l'islam politique en réponse au choc suscité par la décapitation du professeur n'aura pas tardé à susciter en France de très nombreuses interrogations, à la fois idéologiques et politiques, sans même parler des soupçons d'exploitation politicienne, encore pointés du doigt hier par le garde des Sceaux lui-même, Éric Dupond-Moretti. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors toute cette confusion aujourd'hui autour de la riposte de l'État est entretenue par un certain nombre de décisions gouvernementales, comme celle par exemple de renouveler prochainement l'observatoire de la laïcité ou de fermer à partir d'aujourd'hui la mosquée de Pantin, et puis parfois aussi par des sorties purement personnelles. C'était le cas hier de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est dit choqué de voir des rayons de supermarché réservés aux produits halal et cachère.
Oui, Gérald Darmanin a expliqué hier soir qu'il avait toujours été choqué de voir des rayons de cuisine communautaire dans les supermarchés. Ce n'est pas qu'on vende de la viande cachère ou halal dans les supermarchés, a-t-il précisé, mais qu'on en fasse des rayons entiers. C'est là, selon lui, un problème, parce que c'est là, affirme-t-il, que commence le communautarisme. Il a aussi dû ajouter qu'il s'agissait là d'un avis personnel qui n'engageait pas le gouvernement. Considérons d'abord que cette parole s'ajoute à beaucoup d'autres prises de position de Gérald Darmanin depuis quelques jours, au point qu'on peut considérer qu'elle s'inscrit dans une séquence politique. Gérald Darmanin est extrêmement présent dans le paysage médiatique. Lundi matin, il était sur Europe 1, lundi soir sur TF1, dans le journal de 20h. Hier soir, mardi, il se trouvait auprès d'Emmanuel Macron à la préfecture de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et puis il est allé sur BFM TV, hier soir toujours dans l'émission Face à BFM. Et ce qu'on peut comprendre de cette séquence, c'est que Gérald Darmanin fait de la politique, de la poloche, selon le terme employé entre initiés au sein du gouvernement. Que ce soit à travers ses annonces en tant que ministre de l'Intérieur sur les descentes de police, les arrestations, les expulsions programmées, ou bien que ce soit pour exprimer un avis personnel, comme hier soir sur les rayons halal dans les supermarchés, il fait de la politique en ce sens qu'il permet à Emmanuel Macron de s'emparer des questions de sécurité et d'immigration sur lesquelles le président était jusqu'ici contesté et accusé de ne pas en faire assez. Autrement dit, Gérald Darmanin occupe le terrain à droite. C'est pour cette raison qu'on a pu entendre ce matin un certain nombre de réactions indignées à gauche sur les produits halal et aussi de vives protestations hier après-midi avec la droite à l'Assemblée qui a tenté d'expliquer qu'en matière de sécurité et d'immigration, rien n'avait été fait jusqu'ici ou si peu. On a donc un ministre qui, à l'occasion de cet attentat, de ce qui s'est passé, a décidé d'occuper un espace politique et il le fait par procuration pour Emmanuel Macron.
Merci Stéphane Robert. Alors attentat après attentat, il devient évident que le pays des Lumières est une cible idéale pour l'islam radical. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà tenu à rappeler il y a moins d'un mois le président Emmanuel Macron lors de son discours sur le séparatisme à la cité des Mureaux là-bas, comme dans de nombreuses communes de France, mais plus particulièrement donc dans les Yvelines. L'horreur a glacé l'espoir des différentes communautés qui cohabitent. À ce titre, je vous propose d'écouter le père Xavier Chavanne, curé des Mureaux de 2006 à 2019 et qui s'interroge sur les limites et les failles de son action après avoir vu naître pourtant un sentiment de fraternité entre musulmans et catholiques. Le père Xavier Chavanne qui salue par ailleurs avec humilité le courage de Samuel Paty.
On est plutôt dans l'admiration de son travail d'enseignant, de son travail de pédagogue, de son humilité aussi, puisque j'ai cru comprendre que volontiers il entendait les critiques ou il acceptait de se remettre en cause. Du coup, on se sent touché dans son âme de citoyen français et blessé, agressé. Le bien fait pas beaucoup de bruit. Ce qui est sûr, c'est qu'au Mureaux, le salafisme a reculé. Le séparatisme musulman a reculé. Et grâce au travail des mosquées, grâce au travail des musulmans, mais pas seulement, de toute la population qui a aussi essayé de mettre en marche une fraternité qui n'est pas simplement dans les discours, qui n'est pas simplement dans la courtoisie de rencontres entre responsables. Ce travail local, chaque citoyen doit se l'approprier et le faire. C'est ce que faisait Samuel Paty dans son rôle de professeur à l'école. Eh bien, soyons à son exemple, ayons le souci de l'éducation, ayons le souci de la formation. Et on sait bien que la prière ne va pas suffire. Bien sûr que c'est une remise en question aussi de mon ministère, des paroles que j'ai pu prononcer, peut-être des illusions que j'ai pu avoir. Nous, on a choisi le système de l'intégration. Surtout que c'est notre fierté française. Et en effet, ceux qui ne sont pas capables d'entrer dans ce système de l'intégration n'ont pas leur place sur ce territoire français. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Voilà, le père Xavier Chavanne, ancien curé de la ville des Mureaux dans les Yvelines, il répondait à Cécilia Arbona.
Midi 38 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel. Et pendant ce temps, l'enquête sur l'attentat de vendredi dernier progresse.
Oui, 7 personnes dont 2 mineurs doivent être présentées aujourd'hui à un juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen. En revanche, les gardes à vue de 9 autres personnes ont été levées hier soir sans qu'elles fassent l'objet de poursuites à ce stade. Alors, parmi les personnes qui pourraient faire l'objet dès aujourd'hui d'une mise en examen figure notamment le sulfureux militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, mais aussi le parent d'élève qui avait appelé à la mobilisation contre Samuel Paty. En l'occurrence, les enquêteurs antiterroristes s'intéressent à des messages échangés sur WhatsApp entre ce père de famille et le tueur. Quoi qu'il en soit, une information judiciaire va donc être ouverte et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard devrait préciser cet après-midi à Anne Fauquemberg les chefs d'accusation.
Parmi les 7 personnes déférées donc, le père de famille qui a lancé la mobilisation sur Internet contre Samuel Paty et qui a échangé des messages sur l'application mobile WhatsApp avec le terroriste quelques jours avant le drame. 2 mineurs soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant en échange de renseignements. Le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, déjà dans le fichier de signalement des personnes repérées pour leur radicalisation à caractère terroriste. Cet homme a fondé le collectif Sheikh Yassine du nom du fondateur du Hamas tué par l'armée israélienne en 2004, collectif dissous en ce moment même en Conseil des ministres. Les 3 dernières personnes déférées sont des amis de l'assaillant tchétchène soupçonné de l'avoir convoyé ou de l'avoir accompagné lors de l'achat d'une arme. Enfin, parmi ceux qui ont été relâchés hier soir figurent 3 autres mineurs, a priori des élèves du collège de Conflans-Sainte-Honorine, les membres de la famille du terroriste et la compagne de l'islamiste Abdelhakim Sefrioui.
Et c'est donc dans ce contexte très particulier que se poursuit à la Cour d'assises spéciale le procès des attentats de janvier 2015. Avec ce matin, l'interrogatoire d'un certain Abdelaziz Abad, par ailleurs condamné dans une autre affaire de meurtre. Florence Thur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Alors jusqu'à présent, la cour aura principalement évoqué les liens présumés entre les accusés et le tueur de l'hypercacher Hamidi Coulibaly. Or cette fois-ci, si Abdelaziz Abad lie son implication dans ce dossier à, je cite, ses mauvaises fréquentations, eh bien il est surtout le premier pour lequel apparaît le nom de Saïd Kouachi, l'un des deux frères auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo.
Oui, effet surprenant, c'est l'accusé lui-même qui évoque le nom de Saïd Kouachi dès son premier interrogatoire. Plus précisément, Abdelaziz Abad explique aux policiers que le petit ami de sa sœur est venu le voir un jour avec un mec qui portait un béret et des lunettes et qui ressemblait à Saïd Kouachi. Il cherchait des armes. Jamais il n'a identifié formellement le terroriste, plutôt fait marche arrière. Et le président s'interroge sur les versions contradictoires qu'il a pu tenir durant l'instruction, ce qui ne semble pas l'émouvoir une seconde. J'ai pu changer quand j'ai compris que je me suis incriminé tout seul. Silhouette fluette et cheveux bruns, bras croisés ou coudes posés sur la balustrade devant lui, Abdelaziz Abad répond aux questions avec calme, une certaine décontraction, envieux routard des tribunaux. J'ai une sacrée expérience dans le domaine de la justice, lâche-t-il, une pointe de suffisance dans la voix, mais là, c'est quand même une gamme au-dessus. Comme tous les autres accusés à ce stade du procès, il réfute catégoriquement une quelconque participation. Alors, c'est C'était quoi cette histoire, questionne le président. Un règlement de compte? Il a reconnu ses mauvaises relations avec l'ancien petit ami de sa sœur, mais je ne vais pas impliquer un mec dans une affaire de terrorisme pour une histoire comme ça. C'est la seule fois de ma vie où l'on est venu me demander des armes, reprend-il. Moi, je suis dans les stupes. Il s'enorgueillit même de sa réputation dans ce domaine. Restent les nombreux contacts qu'il a eus avec les autres protagonistes du dossier. Il admet, du bout des lèvres, avoir un jour récupéré des armes, mais des trucs de merde que j'arrivais pas à refourguer. Jamais, affirme-t-il, il n'a revu l'homme qui ressemblait à Saïd Kouachi et qui, selon l'ami de sa sœur, aurait trouvé ce qu'il cherchait sur Paris.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Martin Troadec pour les moyens techniques.
Les contaminations au coronavirus s'étendent en France et pour la première fois depuis le mois de mai, le nombre total de malades en réanimation a dépassé hier la barre des 2000, Thomas.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et chercheur à l'INSERM. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Sarah Mansoura. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Première question, monsieur Lescure, nous sommes aujourd'hui encore loin en réalité du fameux pic au cours duquel 7000 malades étaient hospitalisés en réanimation, c'était au printemps dernier. Pour autant, diriez-vous que nous sommes déjà submergés dans une seconde vague de l'épidémie?
Submergés, je ne sais pas, mais c'est vrai que la particularité de cette deuxième vague, entre guillemets, c'est qu'elle est de façon assez paradoxale encore plus difficile à contenir que la première fois. Il y avait un espèce d'élan collectif de la première vague. Et là, on a l'impression qu'on a une sorte d'usure, de fatigue et de sidération collective sur cette deuxième vague, avec finalement le retard pris par tout ce qui est non-Covid qu'on était en train de gérer. Et donc, on a une intrication beaucoup plus forte du Covid et du non-Covid. Et donc, on est beaucoup moins solide sur la capacité à absorber le Covid. Et puis, les équipes sont fatiguées. Tout ça fait que on n'est pas submergé, mais on est plus fragile que la première fois, de façon assez paradoxale. On a appris des leçons, mais on s'est aussi beaucoup fatigué.
Professeur Lescure, un des indicateurs les plus inquiétants peut-être, c'est le nombre de cas graves qui font leur entrée chaque jour dans les services de réanimation, plus de 150 quotidiennement, 278 hier. Ce nombre, peut-on s'attendre à ce qu'il augmente encore ces deux prochaines semaines?
Clairement oui. On est, en fait, on est arrivé sur une phase exponentielle et on est arrivé sur le dernier critères de gravité sur le plan sanitaire de la maladie, qui est la saturation des réanimations. Et donc, vous savez très bien qu'il faut à peu près, quand on prend une décision sanitaire sur cette épidémie, on voit son impact à 2-3 semaines. Donc, on a encore 10 bonnes journées à tenir avec un rythme qui devient exponentiel, qui est assez infernal, qui sature les systèmes au niveau des urgences, de l'accueil des urgences qui saturent les réanimations. Voilà, le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la prise de conscience que ce soit au niveau de la population et aussi au niveau politique, elle se fait que quand les patients arrivent en bout de course, c'est-à-dire en réanimation. J'avais été un de ceux qui avait alerté mi-août parce que justement le premier critère était en train de se saturer au niveau des structures de traçage et d'isolement, c'est-à-dire les CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie et les ARS, qu'on voyait déjà saturés, qu'on voyait déjà un peu avoir du mal à contenir les cas, les clusters. Eh bien, rien n'a été fait ou très peu de choses. Les gens étaient en vacances, on le comprend, mais il n'y a pas eu de changement de comportement, il n'y a pas eu de décision pour anticiper cette vague de réanimation. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pris des décisions trop tardives et qu'on risque de le payer très cher au niveau sanitaire et au niveau sociétal. Parce que dès que vous touchez aux mesures les plus strictes et les plus restrictives sur le plan sociétal, vous impactez très fortement l'économie.
Rappelons-le.
Et la psychologie des populations. Ma grosse difficulté aujourd'hui, c'est que nous étions certains à alerter dès mi-août pour justement éviter toutes ces conséquences en cascade.
Que faut-il faire alors? L'épidémie est au plus haut, on l'a vu ces dernières semaines dans certaines métropoles depuis la rentrée, mais elle s'étend désormais dans d'autres régions. Faut-il alors songer à instaurer des mesures restrictives dans d'autres zones de type couvre-feu, hein, par exemple?
C'est une possibilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est soit dans le rouge écarlate, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Une des difficultés, et vous avez raison de le dire, par rapport à la première vague, c'est que nous n'aurons pas, ou très peu, des possibilités de renfort d'autres régions. Et donc, il faut, dans cette anticipation dont on parlait tout à l'heure, probablement être très vigilant, particulièrement dans les zones rouges écarlates, mais aussi dans les zones qui sont roses ou rouges. Le gros problème après, c'est l'adhésion de la population, c'est les conséquences économiques. Donc tout ça est très difficile à pondérer. Mais ce qui est certain, c'est que plus on prend du retard sur les décisions sanitaires, plus elles auront un impact économique.
Et ce sera le dernier mot. Merci Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, je le rappelle, chercheur également à l'INSERM d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Sarah Mansoura. C'est la mesure que tous les gouvernements européens veulent à tout prix éviter en dépit d'une puissante deuxième vague épidémique, le reconfinement. L'Irlande devient à partir d'aujourd'hui le premier pays de l'UE à recourir à nouveau à l'isolement de sa population. Pendant 6 semaines, tous les commerces vont devoir baisser leurs volets, les citoyens travailleront chez eux avec l'interdiction de se déplacer dans un rayon de plus de 5 km. En revanche, les écoles, les usines et les magasins jugés essentiels resteront ouverts. Et je précise que vendredi, ce sera au tour de la province britannique du Pays de Galles de recourir au reconfinement de sa population pour 15 jours. Celle, seule une autre forme de pandémie, la pollution atmosphérique. On savait déjà, grâce à une étude publiée en début d'année, qu'elle réduisait l'espérance de vie dans le monde de près de 3 ans en moyenne. Et ce matin, une nouvelle étude publiée par l'Alliance européenne de santé nous dévoile cette fois-ci le coût économique de la pollution de l'air dans près de 432 villes européennes, dont 67 en France, parmi lesquelles Paris, où ce coût est sans surprise le plus fort de l'Hexagone, 1 600 € par habitant. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
Alors en réalité, cette étude, Marie, démontre surtout que la pollution n'est pas qu'un mal des grandes métropoles, mais qu'elle a aussi un effet délétère sur les plus petites villes.
Oui, ce n'est pas la première fois qu'une étude chiffre le coût économique de la pollution, mais celle-ci a l'avantage d'utiliser la même méthode pour comparer les villes européennes entre elles. Paris est donc la 7e ville la plus polluée d'Europe. La ville en Europe à qui la pollution de l'air coûte le plus cher, c'est Londres, suivie de Bucarest, Berlin et Varsovie. Alors comment on estime le coût économique de la pollution? L'étude s'appuie sur de nombreux modèles qui donnent une valeur au risque de mortalité prématurée, la perte de journées de travail liés à des maladies causées par la pollution, typiquement les bronchites chroniques, ou encore le coût des admissions à l'hôpital pour des insuffisances respiratoires. En croisant ces données avec la pollution générée dans les villes par les particules le dioxyde d'azote et l'ozone, l'étude montre que les particules fines sont responsables de 82% des coûts estimés et que c'est la mortalité prématurée qui contribue à 76% de ces coûts. En France, la pollution de l'air cause, selon ces calculs, entre 48 000 et 76 000 morts par an. Alors les transports routiers sont la principale source de pollution, suivie par le chauffage résidentiel, les activités industrielles et agricoles. Mais ce que montre ce rapport d'un peu nouveau, effectivement, c'est qu'il n'y a pas une totale corrélation entre la taille d'une ville et les coûts économiques qu'engendre la pollution. Toulouse et Marseille, par exemple, sont en dessous de 1 000 euros de coûts par an et par habitant, alors que Melun, Douai, Fréjus, Toulon et Rouen, villes moins grandes, les devancent dans le classement. Les coûts sociaux d'une mauvaise qualité de l'air seront plus élevés encore quand seront intégrés les coûts liés au Covid-19, ajoute l'Alliance européenne de la santé qui publie ce rapport, car les comorbidités occupent une place prépondérante dans la mortalité des patients atteints du Covid-19. Or, la pollution atmosphérique figure parmi les plus importants facteurs de comorbidité.
Merci Marie Viennot. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se sont mis d'accord hier sur une réforme de la politique agricole commune, ce qui signifie que les orientations adoptées par les États membres devront désormais faire l'objet de discussions avec le Parlement, lequel doit d'ailleurs voter cette semaine ses propres propositions. Alors ce protocole d'accord est notamment marqué par des règles environnementales plus contraignantes et un système de primes versées aux agriculteurs, les éco-régimes. Explication à Bruxelles de notre correspondante Angélique Bouin.
L'objectif de ces éco-régimes, c'est d'introduire plus d'obligations vertes dans la distribution des aides directes aux agriculteurs. Les 27 ministres se sont donc mis d'accord pour proposer que 20% de ces sommes soient réservées à ceux qui s'engagent dans des programmes écologiques précis et particulièrement respectueux de la planète, à faire du bio par exemple ou de l'agroforesterie. Du côté du Parlement européen, la droite, la gauche et le centre qui détiennent la majorité réclament au moins 30%. Le pourcentage final fera l'objet d'une négociation entre les deux institutions. L'autre nouveauté de la PAC, c'est la plus grande latitude offerte aux États dans la répartition de ces aides, une renationalisation de cette politique pour la simplifier, mais aussi pour mieux prendre en compte la spécificité des territoires si variés dans l'Union européenne. Chaque État devra donc présenter à la Commission son propre plan national stratégique. Attention néanmoins, a fait valoir la France, à ne pas laisser les règles trop diverger pour éviter les distorsions de concurrence. Une PAC qui a par ailleurs été rabotée de 40 milliards d'euros sur 387 sur 7 ans. Les agriculteurs vont donc devoir faire mieux, avec moins. Mais les procédures seront simplifiées, en particulier pour les petits exploitants qui réduiront ainsi leurs charges administratives. Une réforme rejetée par les écologistes, son architecture a été élaborée en 2018, avant la présentation du pacte vert de la nouvelle commission et son ambition, entre autres, de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Il aurait fallu tout réécrire, disent-ils.
L'émissaire des Nations Unies pour la Libye s'est déclaré confiante ce matin dans la conclusion d'un cessez-le-feu durable dans le pays, notamment au vu des discussions en cours entre belligérants et qui ont d'ores et déjà abouti à un accord sur la réouverture des liaisons terrestres et aériennes. Alors comment expliquer ce qui pourrait ressembler à un début d'éclaircie alors même que les lignes de front s'étaient figées il y a plusieurs mois déjà? Éléments de réponse avec Christian Chéneau.
Comme des boxeurs épuisés dans les cordes, les belligérants sont finalement arrivés à la conclusion qu'il n'y aurait pas de victoire militaire, qu'un camp ne pourrait pas écraser l'autre et s'emparer de toute la Libye. Le général Haftar, soutenu par l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, avait pourtant cru que sa grande offensive sur Tripoli, lancée au printemps 2019, allait être décisive contre son rival, le Premier ministre Fayez Sarraj, appuyé lui par la Turquie et le Qatar, mais surtout reconnu par l'ONU. L'échec militaire du général Haftar et les doutes de ses principaux soutiens l'amènent aujourd'hui à faire preuve de réalisme politique et à brider ses ambitions militaires. De son côté, le Premier ministre Fayez Sarraj a lui aussi compris qu'il était dans une impasse. Son autorité, qui s'est affaiblie, ne dépasse pas la capitale. Il a d'ailleurs annoncé qu'il quitterait ses fonctions d'ici la fin octobre. Les conditions sur le terrain semblent donc être désormais propices pour une solution à la crise libyenne, d'où l'optimisme mesuré de l'envoyé spécial par intérim des Nations Unies, Stephanie Williams, pour l'établissement d'un cessez-le-feu dans tout le pays. La réouverture des liaisons terrestres et aériennes est le premier signe de la bonne volonté des belligérants. Depuis une semaine, les délégations des deux camps négocient à Genève, sous l'égide de l'ONU, une trêve militaire. Si elle tient sur le terrain, Elle pourrait alors déboucher sur des discussions politiques sur le futur de la Libye, qui passe par des élections générales, comme s'y étaient engagés le général Haftar et le premier ministre Sarraj à la Selle-Saint-Cloud en juillet 2017.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement ensoleillé du sud-ouest au nord-est, partout ailleurs le ciel restera chargé avec un vent persistant. Quant aux températures plus douces, elles afficheront entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.